VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre bulletin, à notre journal. On commence par la mort d'Aboubakar al-Baghdadi, le leader du groupe État islamique, annoncé dimanche matin par le président des États-Unis, Donald Trump, dans une allocution télévisée à la Nation. Le chef de l'exécutif américain a déclaré qu'une opération des forces spéciales américaines avait conduit à l'élimination d'al-Baghdadi dans le nord-ouest de la Syrie. Donald Trump a précisé que le leader terroriste numéro un du monde est mort après s'être fait exploser dans un tunnel, tuant en même temps trois de ses enfants. Le tunnel s'est effondré suite à cette explosion. Les forces spéciales américaines n'ont subi aucune perte dans cette opération, mais un grand nombre des combattants d'al-Baghdadi ont été tués et d'autres capturés, a souligné le président Trump. Nous donnerons davantage de détails sur la mort d'al-Baghdadi dans la seconde partie de notre journal. Nous passons maintenant à l'Algérie, où les juges sont en grève depuis hier. Plus de détails avec Eric Manirakiza.
Les magistrats dénoncent la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon eux, le gouvernement a violé les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature en affectant 3000 juges et procureurs, soit la moitié des effectifs des magistrats. De son côté, le ministère de la Justice soutient que les changements contestés ont été validés à l'unanimité par les membres du Conseil de la magistrature. D'après Saad Eddine Merzoug, porte-parole des magistrats, aucune audience ne s'est tenue hier dans presque toutes les juridictions. Les tribunaux, les cours, la Cour suprême et le Conseil d'État sont paralysés, selon M. Merzoug, qui a ajouté que cette grève pourrait avoir un impact sur la présidentielle du 12 décembre. Des juges sont chargés de superviser le fichier électoral, de recenser les résultats du scrutin dans chaque commune. 22 candidats, dont Ali Benfis et Abdelmadjid Tebboune, tous deux premiers ministres de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, sont en lice pour la présidentielle. La contestation refuse que l'élection soit organisée par le pouvoir en place, qu'il accuse d'avoir soutenu les 20 ans de présidence de M. Bouteflika. Jeudi dernier, des centaines d'avocats ont manifesté à Alger pour l'indépendance de la justice.
Nous retournons aux États-Unis où 180 000 personnes ont été sommées d'évacuer plusieurs zones à cause de l'incendie Kincaid Fire au nord de San Francisco. L'État de Californie a été placé en état d'urgence par son gouverneur, Yacoba Ouedraogo.
Selon l'agence des pompiers de Californie, Cal Fire, le feu a déjà brûlé plus de 12 000 hectares et n'est contenu qu'à 10 %. Hier, le shérif du comté de Sonoma a annoncé l'ordre d'évacuer plusieurs zones situées au nord de Santa Rosa. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a décrété l'état d'urgence en raison des effets des vents sans précédent dans la région. Plusieurs centres d'hébergement d'urgence affichent complet. Santa Rosa a dû fermer l'un d'eux qui se trouvait dans la zone à évacuer. Une partie de l'autoroute principale qui traverse la ville a été coupée à la circulation. Le fournisseur d'électricité a coupé préventivement le courant à 940 000 foyers en raison des conditions météorologiques. La progression du feu est facilitée par un temps sec, un taux d'humidité très faible et un vent soutenu avec des rafales pouvant aller jusqu'à près de 130 km/h. 3 000 soldats du feu ont été mobilisés pour combattre l'incendie qui a démarré mercredi. En novembre 2018, le Camp Fire, un autre incendie, a fait 86 morts dans le nord de la Californie.
Nous revenons maintenant aux réactions après l'annonce de la mort d'Aboubakar al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique. Des réactions sur place au Proche-Orient et aussi en Europe avec des félicitations du président français Emmanuel Macron. Nous retrouvons Yacouba Ouedraogo.
Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mort d'Aboubakar al-Baghdadi est une étape importante dans la lutte contre le terrorisme. Le président Emmanuel Macron a fait état d'un coup dur porté contre Daesh pour le premier ministre britannique Boris Johnson. Je cite, « La mort de Baghdadi est un moment important dans le combat contre la terreur. Son homologue israélien Benjamin Netanyahou a félicité le président Trump pour cet accomplissement, ajoutant que cette réussite est une étape importante. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a parlé de tournant dans la guerre contre le terrorisme. L'Iran a affirmé que l'élimination d'Abu Bakr al-Baghdadi ne signifie pas la fin du combat contre l'organisation djihadiste. Moscou a déclaré ne pas avoir d'informations fiables sur une énième mort du chef du groupe État islamique, faisant état de détails contradictoires. Mazloum Abdi, commandant de ceux qui se font appeler Forces démocratiques syriennes, partenaire de Washington dans la lutte contre l'État islamique, dit s'attendre à une vengeance des cellules dormantes du groupe État islamique. Les forces kurdes en Syrie ont annoncé qu'elles vont s'éloigner de toute la frontière avec la Turquie en vertu d'un accord russo-turc pour mettre un terme à l'offensive d'Ankara dans le nord syrien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Le président Donald Trump a décrit avec force détail les circonstances de la mort d'Abu Bakr al-Baghdadi, chef du groupe État islamique, lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Mais le décès du leader du plus violent groupe terroriste dans le monde a déjà été annoncé erronément à plusieurs reprises. A-t-il vraiment été tué cette fois-ci? C'est la question que Yacouba Ouédraogo a posée à Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes.
Auparavant, ce ne sont pas les Américains qui annonçaient sa mort, c'était la Russie ou certains pays arabes qui sont connus pour avoir peu de rigueur dans les informations et mélanger propagande et parfois de fausses informations pour déstabiliser l'adversaire. Dans le cas des États-Unis, c'est totalement différent. Là où on pouvait avoir un doute, c'est qu'auparavant, c'est que des sources anonymes qui confirmaient ça à la presse. Mais là, il y a Trump qui a quand même engagé la crédibilité, la responsabilité des États-Unis. Ça serait couvrir l'institution américaine de ridicule, et ça, je pense qu'il ne le ferait pas.
Les États-Unis ont annoncé avoir vaincu le groupe État islamique en mars dernier. Est-ce que cette fois-ci, on va dire, l'élimination de Baghdadi signifierait la fin du groupe État islamique?
Non, la fin du groupe État islamique en tant que groupe terroriste, certainement pas. Il va se reformer. Maintenant, l'État islamique en tant que puissance militaire, comme il a pu l'être à l'été 2014, ça paraît peu probable qu'il se reforme et qu'il revienne à ce niveau, à moins d'une déstabilisation majeur de la région, comme l'a été la révolution syrienne dans la lignée du printemps arabe.
On sait que les États-Unis ont pratiquement lâché entre griffes les Kurdes qui ont contribué à la lutte contre le groupe d'État islamique ces derniers temps. Alors, les Kurdes disent craindre des représailles de la part des cellules dormantes du groupe État islamique. Est-ce qu'il faut s'attendre véritablement à des représailles?
Quand vous dites les Kurdes, vous parlez de PG, PKK. Oui, mais pas spécialement plus que les autres acteurs. L'État islamique, c'est en groupe avec tous les autres acteurs. D'ailleurs, Trump n'a pas spécialement mis en avant les Kurdes. Il a remercié la Russie, la Syrie, l'Irak et la Turquie. Tous étaient en guerre contre l'État islamique, et l'État islamique est en guerre contre tous. Donc effectivement, ils mèneront des opérations contre les PKK qui sont fragilisés après le retrait américain, mais pas spécialement contre eux plus que d'autres.
Qu'est-ce que l'élimination d'Abu Bakr al-Baghdadi peut apporter dans la lutte contre le terrorisme en général dans le monde?
Au niveau de la lutte au jour le jour, d'un point de vue sécuritaire, ça change strictement rien. On prend l'exemple de la France. Certes, le principal attentat le plus meurtrier, il a été organisé, préparé depuis le territoire de l'État islamique. Mais le second attentat le plus meurtrier, celui de Nice, c'est le cas d'un sympathisant de l'État islamique qui s'était radicalisé et qui avait répondu aux appels à commettre des attentats. Donc là où ça va changer quelque chose, c'est que l'État islamique va peut-être avoir des difficultés pour faire accepter le successeur d'Al-Baghdadi auprès du public djihadiste. Ils ne sont pas dans une situation de force, donc il est peut-être probable qu'il soit plus ou moins anonyme. Il ne serait pas acceptable pour réclamer l'allégeance de tous au calife. Donc c'est ça l'enjeu, c'est au fur et à mesure que les chefs djihadistes sont tués, il faut que le successeur s'inscrive dans un narratif qui ait une crédibilité auprès du public djihadiste, auquel cas ils perdent le soutien qu'ils ont de ces communautés.
Romain Caillet, chercheur et consultant sur les questions islamistes, joint à Paris. En Algérie, la commission électorale a annoncé que 22 candidats sont en lice pour la présidentielle. L'information communiquée alors que les juges et les procureurs sont en grève illimitée depuis hier pour réclamer l'indépendance de la justice. Les magistrats dénoncent ce qu'ils appellent la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Selon eux, le gouvernement a violé les prérogatives du Conseil supérieur de la magistrature en affectant directement 3 000 juges et procureurs, soit la moitié des effectifs des magistrats. Mais côté pouvoir, le ministère de la Justice soutient que les changements contestés ont été validés à l'unanimité par les membres du Conseil de la magistrature. Affirmation rejetée par Saad Eddine Merzoug, porte-parole des magistrats, qui note qu'aucune audience ne s'est tenue à ce propos hier dans presque toutes les juridictions. Les tribunaux, les cours, la Cour suprême et le Conseil d'État sont paralysés, ajoute M. Merzoug, en soulignant que la grève pourrait avoir un impact sur la présidentielle du 12 décembre. Les juges sont en effet chargés de superviser le fichier électoral et de recenser les résultats du scrutin dans chaque commune.